Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
À toute vapeur, les navires cuirassés à l'assaut des mers. Un cuirassé est, comme une évidence, un navire revêtu d'une cuirasse, c'est-à-dire protégé par un blindage. Pour la marine française, leurs noms font rêver. Gloire, Normandie, Invincible, Magenta, Solferino, Océan, Marengo, Suffren. Des noms qui résument l'histoire de France. Allez, c'est parti, direction le grand large.
Coup de tonnerre dans la rade de Cherbourg.
Un nouveau sous-marin vient d'être lancé à Cherbourg.
Le grand marin, naturaliste par ailleurs, vogue pour la dernière fois de 1837 à 1840 dans le Pacifique Sud et sur les confins de l'Antarctique.
Il s'engagea dès lors un combat vif de mousqueterie.
Le problème posé était double. Remplacer les rames et substituer au moteur humain un autre moteur plus puissant.
Alors donc c'était une affaire de toute la population et ça a toujours été considéré comme cela ici.
La chaufferie numéro 6 est inondée à 2,50 m. La cale postale c'est pire. Il semble que toutes les cales avant soient inondées.
Peut étayer la coque.
Pour ça il faudrait pomper plus vite.
Vous avez vu les dégâts dans la cale postale?
Non, elle est déjà sous l'eau.
Ceci est vraiment regrettable, commandant.
Ah bah c'est regrettable, comme les Shadocks, nous allons pomper. Bonjour Michel Battesti.
Bonjour.
Dites-nous, quelle marine hérite les révolutionnaires en 1789? Quel est l'état de la marine?
Alors en 1789, c'est une marine qui est en bon état, hein, puisque elle est marine de Louis XVI, elle a gagné la guerre d'indépendance américaine. Tout marche bien. Enfin, le problème, c'est là va être la révolution qui va bouleverser totalement la donne, puisque en 1793, les trois quarts des officiers de la marine auront quitté la France.
Eh oui, des officiers, donc des nobles, voilà, bien sûr.
Des nobles, ce qui fait que on se retrouve. Quel organisme peut survivre au départ de trois quarts de son état-major, de ses élites, etc. Donc, ce qui fait que il a fallu remplacer. Alors, remplacer par des gens compétents, qui sont des gens de la Compagnie des Indes ou qui sont des gens du commerce. Le problème, c'est que c'est pas des hommes d'épée. Ce qui fait que ils ne savent pas combattre en escadre, mais ça fait d'excellents corsaires. Donc l'un compense l'autre, mais il y a une difficulté. La marine, le problème, c'est que dès le départ, la marine va connaître une série de défaites, va perdre énormément de bâtiments et va peu à peu avoir un sentiment d'être, va perdre finalement toute son assurance. Et du coup, on n'aura pas le même phénomène que dans l'armée de terre. Dans l'armée de terre, ils vont aller de victoire en victoire. Il va y avoir une osmose entre ceux qui arrivent, ceux qui étaient déjà là, alors que dans la marine, non. Et donc, on a des difficultés. Je vois pour Aboukir, le vice-amiral Bruet, donc noble, etc., qui a d'ailleurs a fait une petite tour en prison en 93. Finalement, ils sont 13 officiers sur des vaisseaux et ils ne se parlent pas entre eux. Pourquoi? Parce que lui a une grande condescendance, etc., pour ceux qui ne sont pas du grand corps. Il y en a du grand corps, mais voilà. Donc il y a une difficulté et ils ont perdu assurance d'eux-mêmes. Ils ont eu des défaites vraiment, ils ont vraiment encaissé vraiment beaucoup de défaites. Ce qui fait que déjà en février 1798, les élites de la marine ont fait une note en disant que maintenant la marine française ne peut plus combattre en escadre. Il faut plus qu'elle cherche l'ennemi parce qu'elle sera vaincue.
Ouais, 1798, c'est la bataille d'Aboukir.
Ça va être la bataille d'Aboukir au mois d'août, mais déjà en février, il y avait déjà cette annonce et donc l'idée c'est de fuir les escadres anglaises.
Michel Battesti, vous êtes historienne spécialiste de l'histoire maritime, directrice de recherche honoraire à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. C'est vrai qu'à ce moment de la Révolution est un moment très particulier dans notre histoire maritime. Sophie Muffat, bonjour.
Bonjour.
Historienne spécialiste de l'histoire navale, parce que, comme nous le disait Michel Battesti, la marine de l'ancien régime s'était reconstituée, celle de la guerre d'indépendance américaine. Vous avez consacré un ouvrage à cette guerre d'indépendance avec Pascal Cyr. C'était une bonne marine, cette marine française.
Oui, c'était une bonne marine. Elle avait bénéficié des évolutions techniques empiriques, parce que il y avait tous les capitaines qui étaient revenus de la guerre d'indépendance en disant que les vaisseaux britanniques allaient plus vite que les leurs parce qu'ils étaient doublés en cuivre, et le doublage cuivre, ça va être une des premières évolutions techniques notables et surtout avec effet immédiat dans la marine française. Et ça, ça va venir à partir des années 1780-85. On va mettre un certain temps avant de comprendre comment ça fonctionne, le doublage cuivre. Mais il va y avoir une difficulté immédiate également, c'est le coût du doublage cuivre qui va doubler le prix de la coque. Donc, il faut de l'argent pour faire ce genre de choses, et une partie des bâtiments sera doublée, une autre ne le sera pas, et il va y avoir un certain nombre de difficultés inhérentes, entre autres à ces évolutions qui vont couper un petit peu la marine en deux, mais ce sont des bons vaisseaux, parce qu'on a Sané en plus. On a Sané qui est un ingénieur constructeur qui, entre 1780-1782, va standardiser la construction navale avec des bâtiments, des plans de bâtiments type, sur lesquels il va construire tous les autres bâtiments, bâtiments de 74 canons, 110 canons, 80 canons, et tous les bâtiments de guerre vont être construits tous sur le même modèle. Ce qui va standardiser également le nombre des équipages. Hein. Chaque homme aura sa place, quel que soit le vaisseau sur lequel il va naviguer, parce que si vous étiez auparavant sur un 64 canons et que vous alliez ensuite sur un 110 canons, vous n'aviez pas du tout la même configuration. Donc, il standardise la marine et il va construire. Et quand on arrive à Aboukir, que vous mentionniez il y a un instant avec Michel Battesti, quand on arrive à Aboukir, la marine, elle est plus ou moins reconstituée sur le plan technique, mais elle est très inégale sur le plan des performances, parce que vous avez à la fois des vieux bâtiments qu'on a recyclés, qui sont en fin de vie quasiment quand ils arrivent dans l'expédition d'Égypte, et vous avez des unités toutes neuves, comme l'Orient, qui est le fleuron de la marine française, et qui va avoir une carrière éclair, hein, puisqu'il va sauter à Aboukir. Vous avez, en arrivant là à la fin du directoire, toute une marine complètement disparate, les évolutions techniques les plus abouties et en même temps les vieux coucous, si j'ose dire, ceux qui se traînent, qui sont en mauvais état, qui n'ont pas bénéficié des évolutions techniques, mais qu'on recycle quand même parce qu'on en a besoin, puisque il y a effectivement eu préalablement toute une série de défaites navales. Donc ça va être très compliqué, surtout après Aboukir, quand il faudra reconstituer la flotte.
Avec des évolutions techniques, hein, c'est sûr, Michel Battesti, on vient d'entendre là le fait que l'on utilise du cuivre pour ces navires. Alors c'est pas pour faire joli, à quoi ça sert?
Le cuivre, c'est pour protéger les coques, éviter qu'elles soient polluées par les coquillages, etc. Et c'est ce qui freine les bâtiments. Alors, le problème des vieux bâtiments pour Aboukir, pour aller de Toulon à Alexandrie, c'était une énorme armada, 280 bâtiments, dont 55 bâtiments de guerre, à la vitesse de deux nœuds. Ils n'ont pas rencontré les Anglais. L'arrivée en Égypte, c'est pas le problème. Le problème, ça a été après l'embossage, etc. Et ces vieux bâtiments de 52 ans, qui avaient d'ailleurs, ils n'avaient pas des batteries normales, comme
batterie de canon, bien sûr.
Oui, batterie de canon. Donc ils avaient des canons de frégate. Ils n'avaient pas on avait peur que au moment évidemment de l'utilisation des canons, la coque explose, ce qui d'ailleurs s'est produit. Voilà. Donc on a quand même des difficultés, certes, mais le grand avantage de Sané, c'est que effectivement, il a fait des bâtiments qui étaient faits pour combattre ensemble, y compris les frégates. Donc c'est ça là, effectivement, l'harmonisation. Maintenant, il faut parler un tout petit peu des arsenaux pendant la enfin pendant la Révolution, qui ont été totalement désorientés, désorganisés, etc. Et les officiers ont pris peur de leurs propres équipages qui voulaient prendre le pouvoir sur les bâtiments. Enfin, ça a été quand même une période très difficile. Et je pense que les officiers en sont sortis très, très traumatisés.
Oui.
Donc, faisons très attention.
Un chaos social, vous l'avez
bien dit. Un chaos social. Et donc, là, effectivement, on arrive à avoir des bâtiments vraiment de très, très bonne qualité. Vous en avez un qui va être pris par les Anglais, qui va rester dans la Royal Navy pendant 89 ans. Certes, donc, ça veut dire qu'à la base, il y avait quand même il y avait de tout. Il y avait effectivement de bonne qualité, et puis d'autres qui étaient ratés, parce que c'est comme ça aussi la vie des bâtiments de guerre, hein, c'est pas homogène.
Le général Napoléon Bonaparte, après la campagne d'Égypte, revient en France, il devient premier consul. Sophie Muffat, essaie-t-il de reconstituer cette marine, celle qui a été endommagée durant la Révolution et à Aboukir particulièrement? Est-ce qu'il y a un souhait français de renouer avec la puissance maritime?
Ah oui, il y a un souhait. Le souhait de Bonaparte, alors d'abord, il va se doter d'un nouveau ministre de la Marine, hein, il va se faire son gouvernement avec l'ingénieur Forfait, et qui va être l'artisan de la reconstruction navale voulue par le premier consul. Alors, la reconstruction navale, elle va y aller tous azimuts, et pas la réorganisation navale, en fait. C'est la réorganisation de l'an 8, hein, qui va être non seulement dans les constructions, hein, puisqu'on va améliorer les constructions navales, on va construire tous azimuts, on va améliorer les ports, les arsenaux, et on va réorganiser complètement la marine, avec le corps des marins eux-mêmes, et tout ça va aboutir à une série de réformes. Bonaparte a un cahier des charges assez précis pour Forfait, il faut faire le plus vite possible, avec le moins d'argent possible, il faut pas que ça coûte très cher, et Forfait, qui est un ingénieur et pas du tout un officier de marine, va faire quelque chose d'exceptionnel en 2 ans, puisqu'il va partir au bout de 2 ans, il va être démis de ses fonctions pour être remplacé par Decret, l'inamovible. Et Forfait va reconstruire la marine au sens le plus large, c'est-à-dire la réorganiser complètement et initier un programme de construction navale avec ses pauvres moyens, parce que le budget de la marine en 99-1800, il est ce qu'il est, mais il n'est pas à la hauteur des ambitions et surtout des volontés du premier consul. Alors, la première chose que fait Forfait, avec son train de réforme en l'an 8, d'abord les préfectures maritimes qui existent toujours, qui est un héritage de la marine, de la réorganisation navale de l'an 8, les préfectures maritimes, le redécoupage du pays en arrondissements maritimes, conjointement avec les arrondissements forestiers qui vont fournir les arrondissements maritimes en bois de marine, les constructions navales, il va y avoir des ports de construction, des arsenaux, les ouvriers, le corps des ouvriers de la marine qui va être totalement refondu, recréé, et même la réorganisation de tous les administratifs. Enfin, la réorganisation navale de l'an 8, c'est un gros truc, un gros barnum, si j'ose dire, dont on n'a même pas idée maintenant, parce que Decret en a hérité, et il va en 1801, continuer sur la lancée de son prédécesseur en se servant de ce qu'il a déjà fait et qui marche. Il va militariser les marins à la demande de l'empereur, ce qu'ils n'ont toujours pas accepté, hein. Leur mettre un uniforme. Enfin, il va tout réorganiser, y compris dans les constructions. Et il faut construire beaucoup, vite et pour pas très cher. Donc, en 1803, quand va y avoir le plan d'invasion de l'Angleterre avec la flottille de Boulogne entre 1803 et 1805, il va dépenser un budget colossal équivalent à la construction de 30 vaisseaux de guerre pour construire 2000 gamelles flottantes avec aucune qualité nautique, hein, et du bois tout juste abattu, impropre aux constructions navales. Donc, c'est véritablement une volonté d'expansion, de construction, de reconstruction. Et il va y avoir, sous l'Empire, notamment en 1810-1813, une autre vague de reconstruction des vaisseaux de marine, et pas juste des frégates. Et là, on a la volonté du ministre qui s'oppose à celle de l'empereur, parce que l'empereur, il a des idées précises sur la marine, mais ce ne sont pas celles d'un marin, ce ne sont pas celles d'un ingénieur, ce ne sont pas celles des amiraux. Et Decret va s'opposer à lui à plusieurs reprises. Mais ça, c'est un autre sujet.
Oui,
mais pour la construction navale en elle-même, il va y avoir deux vagues de construction, deux vagues de reconstruction. Et ce qui fait qu'à la fin de l'Empire, en 1815, on a en gros le même nombre de vaisseaux, de frégates et de bâtiments de guerre qu'il y avait juste avant Aboukir. Et ça, c'est exceptionnel.
Avant d'être empereur, il est premier consul. Un premier consul qui a un forfait qui coûte cher et des batteries qui s'épuisent. Avec Michel Battisti, il faut le rappeler, ce modèle qui est là, c'est celui de la Grande-Bretagne. C'est la marine qui est l'ennemi sur les mers, bien sûr, mais qui est aussi un modèle. Hein. Les Français sont toujours en comparaison avec les Anglais.
Absolument. La pensée navale française est entre deux écoles. L'école historique, qui veut une marine sur le modèle de la Grande-Bretagne, pour mener une guerre d'escadre contre n'importe quel adversaire, être quasiment à parité. Et puis, il y a l'autre école, par exemple Vauban, par exemple ça, qui, eux, ne veulent pas une marine d'escadre. Ils pensent que, face à des puissances maritimes, la France n'arrivera jamais au niveau de la Royal Navy. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est une marine de plus faible dimension, moins chère, et surtout qui pratique la guerre de course. Et qui pratique, bon, évidemment, la défense des côtes. Et donc là, Forfait, lui, il est tenant de cette deuxième école. Et donc, il a convaincu Bonaparte et Napoléon, qui d'ailleurs, jusque lorsqu'il est emprisonné à Sainte-Hélène, continuera à défendre sa flottille. Mais Forfait, lui, il arrive après Sanet. Donc, il y a une espèce de... Il ne peut pas recommencer les bâtiments de Sanet. Donc, lui, il s'est spécialisé dans les petites unités. Et il a vendu, et il a même publié un ouvrage présentant aux Anglais quelle était la stratégie de la France, ce qui est quand même ahurissant. Et donc, il avait convaincu que finalement, la Manche, c'était une sorte de fleuve et qu'il suffisait d'avoir des petits bâtiments très armés pour pouvoir traverser, etc. Maintenant, c'est un projet qui existe depuis le début de la Révolution. L'idée, c'est quand même d'aller attaquer la Grande-Bretagne dans son sanctuaire. Et donc, il y a eu plusieurs flottilles. Hein, là, c'est la quatrième flottille en 1803. Donc, c'est ça le problème. Mais il restera toujours avec la flottille. Il ne la désarmera pas, hein, Napoléon, pensant que ça bloque la Royal Navy, ce qui est faux. Parce que de toute façon, la Royal Navy a construit une contre-flottille et donc de toute façon, et ne met pas, parce qu'elle, elle connaît la Manche, et ne met pas ses escadres dans la Manche, mais sur les ports des ennemis et avec le blocus rapproché. Donc on a deux stratégies et Forfait a été éliminé, alors qu'il est d'accord avec ses idées, mais il lui a été reproché de ne pas avoir une administration extrêmement fixe et tout à fait bien organisé.
Et coûtait trop cher.
Et voilà. Et Decret, par contre, il dira toujours que c'est un excellent administrateur. Donc, on a ça. Et je peux vous garantir que la marine s'est souvenue d'avoir un ingénieur comme ministre de la marine. Et c'est le dernier.
Eh oui, voilà. Après, il n'y en a terminé. Plus. Sophie Muffa.
Juste au sujet de Forfait, pour rebondir sur ce que dit Michel Battisti, Forfait est un ingénieur. Forfait a des idées sur la flottille, mais c'est un rival de Sané. Au moment où Sané a créé a unifié la marine, Forfait n'est pas encore connu, mais il a commencé à écrire. Et c'est un ingénieur extrêmement brillant, tellement brillant qu'il il va avoir droit à certains, on va dire, privilèges, puisqu'il va être ingénieur. Pardon, construction navale. Et surtout, Forfait, il va construire des frégates qui vont rivaliser avec celle de Sané, notamment sa frégate La Seine, qui va être considéré comme particulièrement réussi. Il va inventer le concept de mât rabattable. Il va vraiment créer des innovations techniques sur les petites unités, hein, pas tellement les vaisseaux. C'est pas son truc, les vaisseaux à forfait. Comme disait Michel Mattesi, c'est les frégates et les unités plus petites, plus maniables, adaptées à la navigation côtière et autres navigations rapides, mais pas les grosses unités. Et il va s'entendre très bien avec l'empereur, en effet, il a les mêmes idées que l'empereur. Et s'il est démis de ses fonctions, c'est entre autres à cause de sa gestion très particulière des finances de la marine, parce que c'est un ingénieur, c'est un constructeur, c'est pas du tout un financier. Et il n'a pas rendu les comptes de l'an 10. Vous voyez, c'est le motif officiel. Il n'a pas rendu les comptes de l'an 10.
Et en fait, 1800. L'an 10 du 1802.
1801-1802,
oui, c'est vrai que voilà. Septembre, c'est le début de cette année avec le calendrier révolutionnaire. En tout cas, il est certain que Napoléon déclare forfait le 21 octobre 1805 à Trafalgar. Question bataille navale, ça devient plus compliqué.
Il s'engagea dès lors un combat vif de mousqueterie dans lequel l'amiral Nelson combattait à la tête de son équipage. Notre feu devint si rapide et fut tellement supérieur au sien qu'en moins de 15 minutes, nous fîmes taire celui du Victoré. Aussitôt, les gaillards du Victoré furent évacués et ce vaisseau cessa de tirer. L'aspirant Yon et 4 matelots, par le moyen de l'ancre du Victoré, parvinrent à son bord et nous prévinrent qu'il n'y avait plus personne dans les batteries. À l'instant où nos braves allaient se précipiter pour les suivre, le vaisseau Le Téméraire, qui s'était aperçu que le Victoré ne combattait plus et qu'il allait infailliblement être pris, vint à toute voile nous aborder à tribord, nous cribler à bout portant du feu de toute son artillerie.
C'est René Farabet qui lit cet extrait d'un précis des événements particuliers survenus à chaque vaisseau français dans le combat du 29 Vendémiaire en 14 et Trafalgar. C'est le capitaine de vaisseau Lucas qui s'exprime. Il commande le redoutable Sophie Muffat. Ce moment Trafalgar en 1805, on pourrait penser que c'est la fin de l'idée que la France puisse dominer les mers.
Alors c'est surtout de la fin de les batailles en escadre en fait et de la guerre d'escadre. L'idée que la France puisse dominer les mers, ça n'a pas été écrit. C'est presque après Trafalgar, c'est une espèce de traumatisme français. Surtout, n'en parlons pas, n'en écrivons rien. Surtout, la presse ne doit pas en parler, mais elle va le faire quand même. Et on va surtout axer la communication sur Trafalgar, sur la mort de Nelson. On a perdu la bataille, pas la guerre, et surtout, on a eu Nelson.
L'amiral anglais.
L'amiral anglais qui commandait à Trafalgar. Et surtout, Napoléon ne veut pas communiquer sur une bataille qui n'aurait jamais dû avoir lieu, en fait, et qui a eu lieu parce qu'il avait remplacé l'amiral Villeneuve sans le lui dire par quelqu'un à qui il avait donné exactement les mêmes ordres qu'à Villeneuve, hein, l'amiral Rosilly, qui n'avait pas navigué depuis une vingtaine d'années. Et il remplace Villeneuve parce qu'il fait le pari que Villeneuve, ayant reçu ses ordres, n'osera pas les suivre parce qu'il est pusillanime, craintif et qu'il a décidé que c'était quelqu'un d'incapable alors qu'en fait Villeneuve a suivi ses ordres. Il les a même tellement suivis que, alors qu'il n'aurait pas dû les suivre, hein, il aurait dû rester, enfin bon, ce n'est que mon avis, il aurait dû rester à Cadix, à radouber ses vaisseaux et à soigner ses malades après la bataille des 15-20. Malheureusement, Decret lui écrit qu'il doit attaquer, qu'il doit tout faire pour restaurer l'opinion que l'empereur a de lui. Il va donc attaquer, il ne sait pas qu'il est remplacé. Et quand Rosilly arrive après la bataille, tout est déjà terminé et Villeneuve est prisonnier. Donc, cette bataille qui n'aurait jamais dû avoir lieu a lieu quand même. C'est une catastrophe sur le plan naval, mais sur le plan de la stratégie impériale pour les avancées de Napoléon dans sa stratégie européenne, elle n'a pas énormément de répercussions, puisqu'il va continuer ses conquêtes. Hein. La veille de Trafalgar, c'est la victoire d'Ulm à terre, et puis il ne va pas s'arrêter. Hein. Il va aller mater la troisième coalition à Austerlitz quelques semaines plus tard. quand il apprend la bataille de Trafalgar, De Craye qui lui écrit extrêmement prudemment, il reçoit la lettre le 18 novembre, alors qu'il est déjà bien avancé, et il parle des événements de Cadix, et il attend un rapport plus détaillé, et le rapport plus détaillé de Craye, il va se faire attendre un certain temps, hein, puisque De Craye, il est très rancunier, et que la première chose que lui avait écrit Napoléon avant, c'était que quand on voudra avoir des amiraux qui veulent mourir, j'aurai une marine qui vaille le coup, enfin quelque chose comme ça. Et quand De Craye lui fait son rapport sur la bataille de Trafalgar avec le désastre que ça peut être, il a dit tous les vaisseaux étaient commandés par des hommes qui voulaient mourir. Et il se souvient très bien de ce que l'empereur lui avait dit, et il n'hésite pas à lui renvoyer ses reproches, parce que pour lui, c'est une catastrophe sur le plan marin, sur le plan de tous les prisonniers qu'il va y avoir, de tous les morts, des vaisseaux pris, les vaisseaux coulés, brûlés, détruits, et pour un gâchis monumental qui n'aurait jamais dû avoir lieu.
Michel Battisti, vous avez écrit un ouvrage sur Trafalgar. C'est vrai que cette bataille de Trafalgar, mais c'est pas vraiment la fin des préoccupations maritimes pour Napoléon, au sens où le blocus continental, l'idée de couper tous les ports de façon à ce que les Anglais ne puissent pas venir, ça veut dire que l'espace maritime est sans cesse présent dans l'épopée napoléonienne.
C'est une évidence, puisque c'est l'Angleterre qui est l'adversaire premier. Le cas de Trafalgar, c'est intéressant. Les contemporains ne connaissent pas l'histoire qu'ils sont en train de faire. C'est bien connu comme fait. Quand Pitt meurt, donc au début de 1806, il dit « J'ai été frappé par un boulet de Trafalgar ».
Mais Pitt, c'est celui qui a l'ennemi de Napoléon, voilà, le premier ministre anglais.
Bon, quelquefois l'historiographie va vite, hein, que si vous lisez, je vais pas citer parce que ce serait méchant, mais un certain nombre d'historiens contemporains actuellement, ils disent après Trafalgar, c'est fini, l'Empire est fini. Alors il a quand même duré 10 ans. Et ça a duré quand même jusqu'en 1815 pour qu'on achève complètement, que l'Empire soit terminé. Donc, c'est pas une bataille décisive. C'est une bataille, je dirais, pour l'Angleterre, une bataille de défense. C'est pas une bataille offensive. La flotte, là, l'erreur de Napoléon, effectivement, c'est d'avoir obtenu cette concentration de vaisseaux espagnols et français, pour les envoyer en Méditerranée, pour combattre en Méditerranée. Et c'est une aberration totale. On est bien d'accord. Bien, donc, c'est Villeneuve qui a dit qu'effectivement, les amiraux savent mourir, et que, etc. Alors, Villeneuve qui va se suicider, je sais que la famille de Villeneuve a des doutes. Si c'est pas suicidé, c'est un meurtre en chambre close, quoi. C'est une espèce de chambre jaune, parce que tout était fermé, etc. Ils ont vraiment fait. Il s'est suicidé en s'enfonçant un stylet dans le cœur, ce qui est pas évident, mais c'est pas quelque chose d'étonnant. Hein. Ça s'est fait à cette époque, voilà. Et donc, 1806, on dirait que Napoléon n'a pas compris qu'il a perdu la flotte, et qu'il a perdu, il n'avait jamais eu la maîtrise des mers, là, il a définitivement perdu. Il va envoyer plusieurs escadres, qui évidemment vont là avoir des problèmes, et donc là, il va finir par admettre. Alors, ils ont continué la guerre de course, effectivement. De Craye, lui, est partisan de la guerre de course. De Craye, c'est un curieux ministre de la Marine, très courtisan, etc., très ironique à l'égard de Napoléon. Ses lettres sont c'est extraordinaire, le double jeu qu'il y a dedans. Mais lui, en fin de compte, il est là pour défendre une seule chose. Il est là pour défendre la marine, la flotte. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le fief, il défend le fief de la marine. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes idées avec Napoléon.
Sophie Muffa, vous êtes l'autrice des Marins de l'Empereur, qui a été couronnée, notamment par le prix du jury de la Fondation Napoléon. Quelle marine laisse Napoléon en 1815, c'est Waterloo, toutes ces batailles sont terrestres pour Napoléon. C'est vrai qu'après Trafalgar, il n'y a plus grand-chose, mais il laisse une marine dans quel état? Il reste quelque chose, déjà?
Oui, il laisse un certain nombre de choses. Il laisse des vaisseaux, il laisse des frégates. Il y a tout un bilan de la marine de 1815, ma foi, qui est pas si mauvais. Parce que entre 1810 et 1813, il y a tout un train de reconstruction navale avec un énorme effort financier, un énorme effort de construction. Alors, les idées chimériques de Napoléon sur la construction navale, c'est il veut 100 vaisseaux en 5 ans. Il les aura pas, bien sûr. Mais c'est une idée complètement farfelue. Mais ça donne une idée pour les historiens, hein, rétrospectivement, sur cette volonté de reconstruction qu'il va mettre en œuvre. Il va donner tous les moyens à De Crêt pour reconstruire la marine. Et alors, comme le disait Michel Battisti un instant, De Crêt, c'est un ministre extraordinaire, c'est un véritable courtisan, mais il n'hésite pas à dire à l'empereur que ses idées sont inapplicables à la marine. On ne dirige pas une escadre comme un train d'artillerie. Et Napoléon n'a aucun sens naval. Donc, en même temps, s'il a perdu la maîtrise des mers qu'il n'avait jamais eu, s'il a des idées complètement chimériques, hein, sur ses croisières en Inde juste après Trafalgar, il a absolument rien compris. En 1815, la marine est plus ou moins reconstruite. Vous avez des frégates, vous avez des vaisseaux, vous avez même des nouveaux modèles de vaisseaux avec toutes les évolutions techniques qui ont été mises au point, notamment avec tous les essais qui ont eu lieu du temps où Forfait, l'ingénieur, était encore au ministère. D'ailleurs, Forfait, petite parenthèse, n'a jamais été accepté par les marins. C'était pas un officier, il n'avait jamais navigué, c'était un ingénieur constructeur, et les marins s'imaginaient mal dirigés par un vulgaire ingénieur, fût-il brillant. Donc, Forfait, en plus, n'a pas de sens financier, c'est pas du tout un courtisan. Il s'entend très bien avec Bonaparte, mais voilà. Donc, De Crêt arrive, et De Crêt, lui, c'est autre chose. Hein. L'argent, il sait ce que c'est, il a le sens de l'argent, et il sait le faire fructifier. Et tout son ministère va être occupé à faire fructifier le ministère de la Marine, et il défend la Marine beaucoup plus que l'Empire. Lui, son truc, c'est les marins. Les marins, il faut les entraîner. Donc, il va arriver en 1815 avec une marine plus ou moins reconstruite avant, en termes de bâtiments de guerre, avec des marins entraînés, contrairement à Napoléon, qui considère que si vous mettez un corps d'infanterie sur un vaisseau, immédiatement par l'opération de la pensée magique, il devient un marin apte aux manœuvres basses qui sont pourtant techniques. Et De Crêt, lui, il pense qu'il faut les entraîner, les marins, qu'on ne devient pas marin juste parce qu'on décide qu'on est marin. Et donc, à la fin de l'Empire, vous avez des équipages entraînés, vous avez des vaisseaux reconstruits, des frégates reconstruites, et arrive la première restauration. Alors, entre la première restauration, les 100 jours, et la seconde restauration, il va y avoir toute une évolution extrêmement rapide de « je défais ce que mon prédécesseur a fait, je refais ce qu'on a défait pendant les 100 jours, et au moment de la deuxième restauration, je redéfais ce qui a été fait pendant les 100 jours, sauf les choses qui marchent. » Et les choses qui marchent, ce sont les invalides de la marine créés par Bonaparte pour la retraite des marins, les invalides, les veuves de la marine qui ont droit aussi à leurs indemnités, toutes les évolutions sociales, Louis XVIII va les garder. Par contre, tout ce qui concerne la marine militaire, il va soigneusement décréter l'abolition du corps des marins de la garde, qui va être remis sous les 100 jours, et de nouveau aboli à la seconde restauration. Marins de la garde qui n'ont jamais combattu en mer d'ailleurs, ils n'ont combattu qu'à terre. Mais la construction, les vaisseaux, ce sont, à la fin de l'Empire, la marine est plus ou moins reconstituée avec à peu près le même nombre de vaisseaux qu'avant Aboukir.
Et oui, parce que pendant ce temps-là, les ingénieurs poursuivent leurs travaux.
Le problème posé était double. Remplacer les rames et substituer au moteur humain un autre moteur plus puissant. En 1707, Denis Papin expérimente sur la Weser un bateau à roues mu par la force humaine, mais qui aurait été plus tard actionné par une machine à vapeur de son invention. Malheureusement, son bateau fut détruit par les mariniers, jaloux et vaguement inquiets. Papin ne se relèvera jamais de cette catastrophe.
Robert Delacroix, romancier, officier de marine, marchande, hein, qui en 1966 s'exprimait à propos de la vapeur, l'homme et la mer. Michel Battisti, il faut parler un peu des progrès techniques. On l'a évoqué, hein, mettre du cuivre sur les coques des navires pour éviter les coquillages, pour éviter les tarets, là, ces terribles gros vers qu'on a dans les eaux tropicales. La vapeur ici, ah oui, c'est imaginé, mais c'est pas encore appliqué sous l'Empire.
Alors sous l'Empire, si, il y a eu une proposition de Fulton. On a beaucoup reproché à Napoléon de ne pas avoir saisi cette innovation du Nautilus, hein, de Fulton. Le problème, c'est que pour mettre au point ça, après, ça sera des décennies, hein, donc, et que la Royal Navy avait d'ailleurs aussi demandé à Fulton, n'a pas accepté les projets de Fulton.
Fulton qui vient des États-Unis.
Il vient des États-Unis et qui est, bon, hein, le sous-marin et puis aussi la vapeur. Je veux dire juste un mot sur la fin de l'Empire, c'est que Napoléon, il a voulu, alors non seulement il a fait une marine, c'est tout simplement, il a recréé la marine qui aurait eu en 1789. Et en plus, il avait étendu à la grande Europe, Anvers, Venise, etc., c'est-à-dire tout l'appareil portuaire. Et il le dit lui-même, la grande déception, c'est qu'en 1815, pendant le traité de Vienne, eh bien, Talleyrand n'a pas monnayé cette marine. C'est ça qu'il voulait, avoir une monnaie d'échange pour les négociations dans un traité de paix. Et là, ça a disparu. Alors, pour en revenir à la vapeur, la vapeur va, évidemment, c'est la révolution industrielle. La révolution industrielle, il y a plusieurs problèmes, trois filières qui vont se définir. Évidemment, la propulsion. Deuxièmement, la construction métallique ou blindage. Et puis, l'artillerie. Alors, ça va commencer par, je dirais, l'artillerie. Parce que vous avez, alors quelquefois, ça vient pas de la marine, l'impulsion, ça vient de dénommé Pexan, qui est un général de l'artillerie, mais de terre, et qui propose l'emploi des obus explosifs. On va mettre beaucoup de temps à le mettre au point, parce que c'est pas évident, à la mise à feu poser problème, mais il finit par imposer en 1837 la généralisation de l'obus explosif. Et en 1704, cette date, vous avez la mise en application de ces obus pour détruire et prendre la forteresse de Saint-Jean-du-Hola, donc au Mexique. Et là, Wellington, devant les communes, va dire « c'est la première fois qu'un bâtiment de guerre venant de la mer, prend une forteresse uniquement avec des forces maritimes. » Et là, 1737, c'est fini. La marine en bois, c'est fini. Elle va exploser.
1837.
L'autre point, c'est évidemment de plus avoir le vent pour être tributaire du vent. Donc, c'est la vapeur. Alors, il y a eu des essais en France. D'ailleurs, au niveau des, il y a eu des avancées même au niveau de l'hélice en France. Ça n'a pas été retenu. Mais en fin de compte, le grand mouvement va être pris par la marine de commerce anglaise, qui va multiplier les essais. Et on va finir par avoir des bâtiments. Mais le début, c'est pas la lisse, c'est des bâtiments à roues, très vulnérables évidemment à la mer, très vulnérables à l'artillerie. En plus, comme ils sont sur les côtés et qu'on est toujours avec des vaisseaux avec l'artillerie dans les flancs, ça diminue le nombre de
canons. Ah oui, la roue est sur le côté du bateau, là où il y a les canons. Mais oui, bien sûr.
Vous avez les bâtiments à roues, maintenant, vous en avez sur le Mississippi. Hein,
oui, on voit bien.
Ça a totalement disparu. C'est le progrès technique, c'est pas linéaire. Il y a des impasses. Ça a été une impasse. Et on a remplacé, donc, on a fini par avoir l'hélice. Et là, ça règle le problème, parce que l'hélice est à l'intérieur, donc elle n'est plus vulnérable à la mer et puis aux effets. Donc, mais elle a des défauts, parce que l'hélice crée un espèce d'arc au sein du navire, et donc il va falloir trouver un système pour remonter l'hélice, parce que finalement, sinon, les bâtiments à hélice allaient moins vite que les bâtiments à voile. Donc, il y a tout ça, peu à peu, ça se met au point. Et on arrive aux années 1840, où on arrive avec des bâtiments qui vont être ceux qu'on connaît, mais évidemment avec les évolutions.
Bien sûr, c'est l'amorce de tous ces progrès, voilà. Sophie Muffat, sur ces progrès techniques, sur ces navires, que ce soit l'inventeur américain Fulton, que ce soit tous ces progrès que nous évoquait Michel Battesti.
Oui. Alors, Fulton, il n'a pas eu de chance. D'abord, il vient des États-Unis, c'est un dessinateur technique. Et quand il va proposer en France ses inventions, notamment le sous-marin et autres inventions, parce qu'il n'a pas créé que ça, il va faire des essais dans la Seine, des essais qui vont durer 6 mois, qui vont être dirigés par Forfait quand il est ministre. Et les essais sont extrêmement concluants. Mais malheureusement, le directoire et Bonaparte, après, décident que non, c'est pas une façon morale de faire la guerre et on ne va pas prendre votre sous-marin, même s'il fonctionne. Il est très déçu, il va proposer ses services aux Anglais qui vont refuser le sous-marin exactement pour les mêmes raisons. C'est sournois. Par contre, les Anglais sont pragmatiques, ils vont prendre ses chaloupes à torpilles, ils vont prendre ses brûlots, ils vont prendre ses catamarans, ces espèces d'engins incendiaires quasiment autonomes et qui marchent plus ou moins. Et au changement de gouvernement, il va être remercié et retourné aux États-Unis où on va lui piller tous ses brevets. Et où il a créé la machine à vapeur, la marine à vapeur. Et la marine à vapeur de Fulton, c'est ce sont les quasi-prototypes de cette marine à vapeur développée ensuite, dont parlait Michel Battesti il y a un instant. Mais la grande erreur impériale, ça a été justement de refuser ces évolutions techniques proposées par Fulton, qui étaient véritablement brillants, mais incompris. Parce que c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Et il a eu raison beaucoup trop tôt. Donc l'empereur ne croyait qu'à la marine en bois. Les Américains ont tout pris, lui, les sous-marins, les roues à aubes, les bateaux à aubes, les bateaux à vapeur. Tout ça a été développé aux États-Unis, y compris pour pendant la guerre anglo-américaine de 1812. On s'est servi des inventions de Fulton. Sauf que au moment où Fulton crée un nouveau prototype, on dit on est d'accord pour le développer, mais la guerre vient de se finir, alors ben écoutez, finalement on ne le développera pas. Il a malchance jusqu'au bout.
C'est un homme qui a vraiment pas de chance, ce Fulton, avec l'artillerie qui progresse sans cesse améliorée. Michel Battesti, vous nous avez dit également la propulsion avec l'hélice et la vapeur, et le blindage du navire. Ça aussi, c'est cette histoire-là qui nous intéresse particulièrement dans ces années 1830-1840. On voit un vrai progrès.
Donc là, la marine en bois, tous les états-majors, toutes les marines ont bien conscience que c'est fini. Mais on est en temps de paix. Donc c'est pas là où on fait des grandes modifications. En plus, l'Angleterre domine vraiment par la quantité et la qualité. Donc elle a pas envie d'aller mettre toute sa flotte évidemment à la casse. Donc la recherche, c'est de. Alors d'abord, il faut pas oublier qu'on a introduit de plus en plus du fer dans les constructions en bois. Les vaisseaux qui apparaissent, qui sont des grands vaisseaux dans les années 1840, ont déjà beaucoup de fer à bord. On a mis les chaînes, on a remplacé les cordages par des chaînes. Ça, c'est l'influence des grandes circumnavigations. Parce qu'il a fallu, avant c'était vraiment, on partait avec un équipage, à la limite on revenait avec un autre.
Vous exagérez, mais à peine.
Voilà. Et tandis que là, maintenant il y a plus le cordage, donc c'est l'humidité, etc. On a amélioré aussi l'eau dans des trucs en ferraille. Il y a tout un système qui peu à peu améliore la vie à bord et l'hygiène à bord. Faut pas oublier les grandes épidémies qui ont été au XVIIIe siècle. Au XIXe, c'est fini. Il y a des gens qui meurent à bord, mais...
Il n'y a plus le scorbut qui fait aussi peur qu'auparavant.
Alors,
oui.
Le scorbut fait encore... On meurt encore du scorbut pendant la guerre de Crimée, ce qui est quand même scandaleux.
Mais dans les années 1850.
Voilà. Juste un mot sur le scorbut. Il y avait une force française qui était en mer Blanche, qui souffrait du scorbut. Les Anglais ont proposé ce qu'ils ont, évidemment, c'est à la limite du gin fizz.
C'est vrai,
parce qu'ils avaient fait le citron, le jus de citron. Mais le jus de citron, c'est, comme vous savez, pas très agréable. Les marins n'aimaient pas trop. Et c'est à l'époque de Nelson où son médecin a eu l'idée de rajouter de l'alcool. Hein, ah, ça passe mieux. Dedans. Et alors, ça faisait une sorte de jean fizz. Et alors là, ça passe mieux. Mais en plus, ce qu'il ne savait pas, c'est empirique, mais enfin, l'alcool cristallise la vitamine C. Ce qu'on ne savait pas, hein, on connaissait pas du tout la vitamine C, on le découvre dans les années 1920, hein, donc même fin. Donc il donne cette mixture aux Français qui le scorbut disparaît et Fonsagrive, grand médecin hygiéniste de la marine, hein, il a découvert plein de choses, dit oui, d'accord, mais enfin c'est uniquement dans les régions polaires. Et du coup, le jus de citron n'entrera dans la ration des marins que en 1860.
Ah oui, c'est tard, hein.
Ah ouais.
C'est tard.
Ouais,
ouais. Sophie Muffa, parce que faut quand même rappeler toutes ces conditions de vie de ces marins sur les navires, hein. C'est extrêmement difficile. On parle sans cesse de progrès ici, mais de progrès technique. Les conditions de vie, elles, évoluent un peu. On vient de l'entendre par rapport à l'eau. C'est plus facile d'être marin au fur et à mesure que le temps passe au 19e siècle.
Plus facile d'être marin. Les vaisseaux changent, les hommes, leurs conditions de vie ne changent pas tant que ça, en fait. Parce qu'ils sont tributaires des quarts, ils sont tributaires de la bonne santé du bord, en fait. S'il y a des malades à bord, tout le monde est malade. C'est un vase clos, un vaisseau. Et donc, les personnages les plus importants du bord pour maintenir les bonnes conditions de vie, c'est les officiers de santé et le commis. Et il faut savoir que l'eau dont on parlait il y a un instant, l'eau c'est vraiment sans eau vous pouvez pas vivre et dès que l'eau elle est putride, c'est fini. Il faut absolument refaire de l'eau et l'eau on en utilise beaucoup tous les jours, hein. Alors ça c'est quelle que soit l'époque parce que ce soit à l'époque de Napoléon en 1805 ou pendant la guerre de Crimée en 1856. L'eau, on peut pas vivre sans. Et les hommes à bord, ils ont besoin d'eau. Donc, le stockage de l'eau est particulièrement soigné. Les tonneaux dans lesquels on va la stocker sont de la responsabilité du commis du bord qui les amène avec lui, mais l'eau est de la responsabilité de l'officier de santé. Donc c'est vraiment très particulier. Et si vous êtes malade à bord, vous êtes mieux nourri que ceux qui sont en bonne santé. Vous avez un repas de plus, vous avez plus de sucre. Vous avez des pruneaux dans les rations. Enfin, il y a vraiment des choses qui changent. Les conditions de vie à bord, les médecins depuis l'Empire avaient déjà travaillé sur les conditions de vie des marins et certains avaient fait quelques expérimentations au niveau de l'alimentation qui n'avaient pas vraiment été acceptées, remplacer un certain nombre de choses uniquement avec des légumes secs, enfin bon, c'est pas terrible, mais que ce soit, il y a des choses qui ne changent pas. Les conditions de vie sont toujours aussi compliquées et difficiles, et dès qu'il y a une épidémie à bord, que ce soit la fièvre jaune dans les pays tropicaux, le scorbut par manque de vitamine C ou autre, hein, la dysenterie, et certains médecins considéraient que l'excès de travail était le principal risque du marin, l'excès de travail.
Ah bah oui.
Donc forcément, les conditions de vie, elles sont toujours difficiles.
Mais c'est un même petit jean fizz et ça repart.
Alors ça aussi, c'est à l'époque de l'Empire, on appelait ça le breuvage de Colbert.
Ah bah
donc,
voilà.
Voilà. Et c'était uniquement le citron, uniquement dans les régions tropicales, parce que ça coûtait cher et qu'on n'en avait pas besoin en Atlantique. Par contre, c'est quel que soit le nom qu'il porte, que ce soit dans la marine anglaise ou dans la marine française, c'est extrêmement efficace pour le scorbut. Mais effectivement, il n'y avait pas que ça.
Michel Battesti, à quel moment la France retrouve-t-elle une marine puissante? Ou pour le dire autrement, à quel moment le pouvoir en France décide-t-il de remettre en place une marine telle qu'elle était auparavant?
Ça, c'est toujours compliqué parce que de façon régulière en France, bien que nous ayons superbes littoraux, qu'on ait toute une population. Alors c'est vrai que pendant la Révolution et pendant l'Empire, il y a eu un retrait en quelque sorte de l'économie, hein, littorale. Et bien de temps en temps, en 1815, en 1832, etc., eh bien, il y a des gens pour dire il faut supprimer la marine.
Ah oui, à ce moment-là.
Carrément.
Ouais.
Alors donc, on défend, vous avez des... Et donc, on a toujours les deux fameux deux écoles qui s'affrontent, et il faut la supprimer. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est récurrent. Hein, et donc, ça permet de bien comprendre le système. Juste pour un mot sur le scorbut, il apparaît en mer au bout de 75 jours, hein, point barre, s'il n'y a pas de vivres frais. Ce qui va disparaître au 19e, pour lesquels il va y avoir... et c'est que avec la vapeur, on va être obligé de faire du charbonnage, et donc on va être obligé de faire davantage d'escales, et on va être obligé d'avoir des vivres frais. On ne sait pas à l'origine du scorbut, mais on va le soigner comme ça, et... objectivement parlant, la vie à bord s'améliore. On pense même à la nostalgie, on pense ce qu'on oublie toujours, hein, on pense aux maladies mentales et on essaye de les rendre heureux à bord. C'est considéré comme étant l'œuvre qui doit être celui du commandant du bâtiment. Donc, le 19e siècle, c'est fini. Il n'y a plus de grandes épidémies. Je vais revenir aussi sur le blindage, parce qu'on avait oublié le blindage en route. C'est le problème du blindage, c'est que donc le fer a été de plus en plus dedans, et qu'on s'est dit, on va remplacer le bois par le fer. Le problème, c'est que le fer est considéré comme un matériau non militaire. Pourquoi ? Parce qu'on tire dedans, ça fait des trous. Or, le bois, quand on tire des obus, finalement, le bois se replie et on peut calfater, etc. Quand on tire dans un bâtiment enfin, en fer, eh ben, il coule. Donc, c'était tout le problème. Alors, Napoléon III,
d'accord,
qui est un artilleur, qui voulait absolument, puisque engagé dans la guerre de Crimée, en alliance avec l'Angleterre, voulait trouver le moyen de envoyer des bâtiments pour s'approcher suffisamment des côtes, les bombarder, etc. Par exemple, bombarder Saint-Pétersbourg, etc. Et il a voulu qu'on crée ce qu'on appelle des batteries flottantes. Alors, avant... ça avait été déjà envisagé, mais on n'avait pas trouvé la solution pour faire en sorte que l'artillerie fasse pas des trous dans les coques. Et il va proposer des types de blindage. C'est extraordinaire, c'est comme si le président de la République qui propose au chef d'état-major pour faire un porte-avions, ce qu'il faut faire et tout. Donc on va faire des essais à Vincennes pour qu'il puisse y assister. Il va s'occuper aussi de l'artillerie. Et ils vont finir par trouver la solution, c'est-à-dire un matelas de bois avec dessus fixé une 12 cm de fer forgé. Et là... on aura des batteries flottantes. Ah, les batteries flottantes, c'est quoi ? C'est une espèce de machin, de barge, on disait une boîte de savon, qui est armée avec les plus lourds canons de l'époque, avec des 16 livres, et des 50, je veux dire, et qui, évidemment, tient pas la mer, mais on va les employer en Crimée, on va les employer contre Kunburn, qui est, on connaît bien maintenant, hein, c'est tout simplement à l'embouchure du Dnieper.
Nous sommes à l'actualité.
Et ces batteries flottantes, eh bien, ne vont pas couler et au contraire vont détruire les fortifications, la fortification. Et il va y avoir un phénomène très particulier, c'est que les soldats russes vont lever le fusil en disant on peut pas combattre puisqu'on passe son temps à tirer dessus et il se passe rien, c'est plus la guerre.
Ouais, c'est ça. Donc on a nos navires cuirassés, les cuirassés sont là.
On avait commandé 10, il n'y en a fait que 5, là il n'y en a que 3 qui sont engagés. Et pour faire les 5 autres, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a fourni à l'Angleterre une avancée technologique, c'est-à-dire qu'il a donné la solution pour faire du blindage.
D'accord, oui, parce que nous sommes en paix avec les Britanniques.
Et surtout pour vraiment obtenir, je ne suis pas sûre que les Anglais l'auraient fait, mais pour obtenir la décision et avoir des bâtiments qui puissent lutter contre les fortifications, alors contre, évidemment, Sébastopol, etc. Mais, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, évidemment, ça s'est poursuivi. Dupuy-de-Lôme, qui est grand ingénieur du 19e siècle, lui va étendre ce dispositif à la gloire, c'est-à-dire à un bâtiment de ligne. Et pour que le blindage puisse être intégré, alors d'abord le blindage, ça va être le long de la ligne de flottaison, et pour intégrer ce blindage, il va retirer une batterie, c'est pour ça qu'on parle de frégate cuirassée, pour la gloire.
La gloire mise à l'eau en 1859, voilà. Pendant le Second Empire. Michel Battisti, pour terminer, on peut vraiment dire que pour ces marins, ce n'est pas du tout les mêmes navires entre eux. Non. Ce que nous avons évoqué au début, cette marine de la Révolution et du Premier Empire, mais 60 ans plus tard, sous le Second Empire.
Voilà. C'est-à-dire que, enfin, compte, il y a des officiers qui ont vécu dans l'ancienne marine avec marine en bois, à voile, tirant des obus pleins, et ils se retrouvent sur des bâtiments en fer, à tourelles, tirant des obus explosifs avec une artillerie se chargeant par la culasse. C'est un autre monde. C'est-à-dire, on a dit, il y a eu des historiens pour dire, finalement, depuis 1630, on avait toujours la même marine. Et puis, au 19e siècle, Julien de la Gravière a fait une phrase qui est très, très poétique. Il a dit, finalement, il y a autant de différence entre un vaisseau construit en 1790 et puis la gloire et les autres qu'entre un dinosaure et un oiseau.
Ah ben voilà, ben c'est très très beau, c'est une très jolie conclusion. Merci beaucoup à vous Michel Battisti, merci également à vous Sophie Muffa. C'est cette histoire maritime qui nous conduit désormais jusqu'au pourquoi du comment, car voici Gérard Noiriel.
Pourquoi a-t-on construit des prisons pour enfants au 19e siècle? Les mesures répressives prises par le pouvoir d'État ont souvent été justifiées par des raisons d'ordre humanitaire. Ce fut le cas au XIXe siècle, lorsque furent construites les premières prisons destinées aux délinquants mineurs. Les réformateurs de la Société royale pour l'amélioration des prisons, fondée en 1819, voulurent mettre un terme à une forme traditionnelle d'enfermement qui regroupait indifféremment les jeunes vagabonds et les vieux bandits. Pour que la prison cesse d'être l'école du crime, comme on disait alors, Charles X décida la construction de la Petite Roquette, qui fut la première prison cellulaire inaugurée en France. L'architecture s'inspirait du système panoptique, imaginé par le philosophe anglais Jeremy Bentham. Le but était de permettre à un gardien, logé dans une tour centrale, de surveiller tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent savoir s'ils étaient observés. Dans son célèbre ouvrage « Surveiller et punir », paru en 1975, Michel Foucault a fait du panoptisme le modèle d'une société disciplinaire, dans laquelle le pouvoir consiste à voir tout en restant invisible, c'est-à-dire sans se laisser capter dans le savoir des autres. Plus de 400 délinquants mineurs furent incarcérés à la Petite Roquette. Il s'agissait souvent de jeunes orphelins ou des enfants naturels qui avaient été condamnés pour vagabondage et vol simple. Les autorités leur imposèrent d'abord l'isolement cellulaire de nuit et le travail en commun durant la journée. Mais les résultats n'ayant pas été à la hauteur des espérances, on appliqua à la fin des années 1830 le régime de l'isolement total. Les activités qui nécessitaient un regroupement furent elles-mêmes organisées de façon à ce que l'enfant reste seul. Pour la messe, on aménagea 276 alvéoles où chaque détenu suivait l'office sans apercevoir son voisin. Lors des déplacements dans l'enceinte de la prison, la tête de l'enfant était recouverte d'un capuchon noir qu'il rabattait sur son visage pour ne pas être vu par ses camarades. Ce nouveau régime fut à nouveau justifié par des raisons humanitaires. Il s'agissait de sauver l'enfant des influences néfastes de sa famille, de son milieu urbain et de ses copains de mauvaise vie. Les conditions d'hygiène étaient déplorables et l'alimentation suffisait à peine à leur survie. Mais pour ces enfants, le plus difficilement supportable, ce furent l'isolement absolu et la règle du silence qu'on leur imposa. Ils tentèrent de résister à ces formes extrêmes de coercition en couvrant les murs et les latrines de graffiti. Certains d'entre eux tentèrent de se suicider, d'autres participèrent à des émeutes aussitôt réprimées. Cités d'abord en modèle, les élites prirent conscience que la Petite Roquette était devenue un mouroir. Le système d'isolement individuel total fut abandonné en 1865 et la prison de la Petite Roquette, fermée en 1974, fut détruite l'année suivante. À sa place, la ville de Paris a aménagé le square de la Roquette. Un panneau rappelle aux visiteurs que, de 1836 à 1929, furent détenus dans des conditions inhumaines des milliers de jeunes âgés de 7 à 21 ans.
Merci beaucoup Gérard Noiriel pour ce rappel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Et merci à Simon Laurent, à France Bleu, Belfort, Montbéliard. Le cours de l'histoire préparé par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudèche, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayou Nguizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire est écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.